On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils se moquent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche pour s'attaquer au ciel et leur langue n'épargne rien sur la terre. Verset 10, voilà pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. 11, il déclare, comment Dieu saurait-il? Comment pourrait-il remarquer? Ainsi sont les méchants, ces gens sans foi ni loi. Toujours heureux, toujours à l'abri des ennuis, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et là, c'est le chrétien qui parle. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, c'est-à-dire que je suis resté honnête. Il y a combien de gens qui ont déjà dit ça dans l'Église, ici, dans leur cœur? Quand on regarde des gens qui sont malhonnêtes à l'extérieur, qui s'enrichissent sur le dos des autres, qui mènent une bonne vie, en apparence. Et on se dit, mais ça me sert à quoi, moi, de vivre honnêtement? Lui, il magouille, il fait que du noir, les impôts, il n'est pas embarrassé par les impôts. Moi, je gagne un petit salaire, et le moindrement que je fais une erreur sur mon rapport, on vient me ponctionner, on vient me chercher mon argent, et on ne me lâche pas. Comme Asaf, on voit que on a l'impression que les méchants, que les insensés, que les gens sans foi ni loi sont à l'abri de toutes ces choses-là. Et que c'est nous, finalement, qui en payons le prix pour eux. Et on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être honnête? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre comme Dieu nous le demande? On continue, regardez ce qu'il dit. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que je suis resté honnête et que j'ai allé laver mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, c'est-à-dire j'endure toutes sortes de peines. Tous les matins, mon châtiment est là. Et pendant qu'Asaph étudiait les méchants, il trouvait qu'ils semblaient si insoucieux, si insouciants et si heureux, qu'ils agissaient comme si rien de mal pouvait leur arriver, et qu'ils se permettaient tout ce qu'ils voulaient. Un exemple, on a pris un verset tantôt, ces méchants qui jurent, qui brandissent le poing vers Dieu, en disant, eh bien, il est où? Il est où s'il est vrai, si Dieu existe vraiment? Alors au verset 12, il dit, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse, c'est-à-dire ils s'enrichissent. Essayez de comprendre qu'il y a des gens honnêtes qui meurent jeunes et qu'il y a des gens méchants qui vivent vieux. Quelle injustice, n'est-ce pas? Essayez de comprendre ça. Où est la justice? Où est Dieu quand son peuple est adossé au mur? Qu'est-ce que cela signifie de dire que son règne domine sur toute chose quand on nous tape dessus? C'est une question fondamentale à laquelle il est important de réfléchir. Pourquoi? Parce que si nous ne prenons pas le temps de réfléchir à cette question, tôt ou tard, nous risquons d'être complètement abattus en tant que chrétiens, au risque même d'abandonner complètement la foi, comme certains l'ont fait. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que ça me donne de plus d'être chrétien? Qu'est-ce que ça me donne? Vous avez déjà entendu ça? J'ai déjà entendu, moi. Ouais. Qu'est-ce que ça me donne d'être chrétien? Qu'est-ce que ça me rapporte de plus? Le problème, c'est que si on vit uniquement pour le maintenant, ça veut dire qu'on vit avec nos yeux et on va facilement se décourager. Le chrétien, comme dans Hébreux chapitre 11, à travers tous ces héros de la foi, il ne vit pas nécessairement sur les promesses que Dieu me donne pour maintenant, mais sur les promesses que Dieu donne pour l'éternité. Vous regardez dans les héros de la foi, il y en a plusieurs, la parole nous dit, il y en a plusieurs qui n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis de leur vivant. Mais là-haut dans le ciel, ils ont reçu ce que Dieu leur avait promis. Asaph a réfléchi sur le sujet. Ce que je suis en train de vous dire là, Asaph a réfléchi dans le sujet. On va voir ce qu'il a réfléchi. Regardez à partir du verset 16. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour où, en entrant dans ton sanctuaire, Seigneur, j'ai compris quel sort final attendait les méchants. Frères et sœurs, les méchants, ils vivent comme ils veulent. Ils ont leur paradis maintenant. C'est l'enfer qui les attend pour plus tard. Peut-être qu'en tant que chrétien, on vit des moments difficiles, la persécution, entre guillemets, l'enfer. Mais une chose est certaine, les promesses que Dieu nous a données sont certaines. Si nous vivons l'enfer maintenant, c'est le paradis qui nous attend pour l'éternité. Ça, c'est ce qui est réservé aux justes. Et c'est l'enfer qui est réservé aux méchants. Regardez ce qu'il dit. « Jusqu'au jour où en entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort final attendait les méchants. » Verset 18. « Ah! Comme en peu de temps, ils sont réduits à rien, finis, anéantis par une terreur soudaine. » Verset 19. « Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien. Quelle patience que Dieu a envers ces gens-là. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous viennent au salut. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans son épître. Ils se réduisent en rien, comme les images d'un rêve, lorsqu'on s'éveille. Vous avez déjà connu ça, hein? Moi, ça m'arrive la nuit, je me réveille. En tout cas, je me réveille. C'est pas que ça m'arrive, c'est toujours. Je me réveille la nuit. Mon âge m'appelle à aller faire certains besoins la nuit. Mais quand je viens pour m'endormir, puis que je réussis pas à m'endormir, surtout quand vous avez 5 heures de sommeil déjà avant d'aller aux toilettes, après, c'est très difficile de se rendormir comme si on s'est couché à 11 heures le soir. Hein? Et là, je me couche, et puis là, le Seigneur, là, il y a des versets que j'ai médités durant la journée qui me reviennent en tête, et là, ceux qui prêchent en avant et d'autres aussi, vous avez déjà vécu l'expérience, là, tu pourrais pondre un sermon dans ton lit, quoi. Ça sort, ça déboule à partir d'un verset, ça sort. Et là, probablement, si on ne se lève pas pour aller prendre note de ce que le Seigneur est en train de nous dire, bien, tu te réveilles le lendemain matin, c'est foutu, tu te souviens même plus de ce que tu pratiquement plus de ce que tu as entendu durant la nuit. Et c'est ça, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, comme les images d'un rêve lorsqu'ils s'éveillent, c'est ça qui ont de l'air. Tu les as vus, puis après ça, tu t'es oublié. Quand j'étais plein d'amertume, verset 21, choqué jusqu'au profond, au plus profond de moi-même, il était choqué, Azaph, en tant que chrétien. Je réalise que j'étais stupide et sans intelligence. Je n'y comprenais rien comme vraie bête devant toi. 24, tu me conduis selon ton plan. Ensuite, tu me recevras dans la gloire. Là, c'est le chrétien qui vient de parler ici. Lui, il a compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà Romain. Voilà à quoi s'applique ce passage dans Romain. Lui, c'est un chrétien. Tout concourt, Seigneur, au bien de ceux. Je viens de comprendre ça. Je viens de comprendre. Pourquoi j'ai un cancer, je peux vous témoigner. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Après ma conversion, c'est la plus grande expérience que j'ai vécue, c'est mon cancer. Je n'ai jamais vécu une relation aussi proche avec le Seigneur. Je n'ai jamais ressenti la paix de Dieu en moi comme pendant cette période où j'ai eu à traverser cette maladie. Et je peux dire aujourd'hui devant vous, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Il a compris, Azaph, ici. Il a compris. Regardez ce qu'il dit. « Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis selon ton plan. Ensuite, tu me recevras dans la gloire. » Verset 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, que désirer puisque je t'ai? Je ne prends plaisir qu'en toi. » Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi Dieu pour toujours. Verset 27, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, et tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles, tous ceux qui t'abandonnent. Verset 28, mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. Tu es mon refuge. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait, c'est-à-dire raconter toutes tes œuvres. Et chaque chrétien qui a placé sa confiance dans le Seigneur, le plus beau témoignage qu'il peut apporter, c'est de raconter l'œuvre que Dieu fait dans sa vie au quotidien. Exactement ce que le Seigneur a dit à celui à qui il venait d'enlever, qui venait de chasser, délivrer de plusieurs démons. Vous vous souvenez de ce passage-là, dans Luc et dans Marc, les deux, c'est repris dans les deux. Ou qui est celui qui est libéré de plusieurs démons, eh bien, il veut suivre Jésus maintenant, parce qu'il voit Jésus tel qu'il est. Et il veut suivre, c'est son maître dorénavant. Et il veut le suivre. Et Jésus lui dit non, retourne dans ta famille. Retourne dans ta famille et va dire, va témoigner, va rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est ça l'évangélisation, hein? Va rendre témoignage de ce que Dieu fait au quotidien dans ta vie. Va raconter ce que tu étais avant puis ce que tu es devenu parce que tu as fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu l'as vu tel qu'il est à travers les Écritures. Va raconter. Va le raconter. Et non seulement tu le racontes une fois, mais tous les jours, tu as un rendez-vous avec lui dans sa parole. Va partager aux autres ce que le Seigneur a fait dans ta vie et ce qu'il continue à faire dans ta vie. Va partager les changements de valeur qu'il a transmis dans ta vie. L'espérance qu'il te donne. Frères et sœurs, les gens ont besoin d'entendre ça. Hein? Ça se suicide à tour de bras dans le monde. Mon fils, il travaille à SNCB, parce qu'on entend souvent parler de la SNCF aujourd'hui, la SNCB. Vous savez que la SNCB ne dit pas le nombre de personnes qui se suicident par année, parce que ça pourrait amener un effet d'entraînement, d'enchaînement, et ça dépasse, c'est plus qu'un par jour. Hein. Et on essaie d'éviter de débruiter le bruit, de débruiter ça, pour simplement empêcher les gens de pouvoir penser de venir se suicider, de venir se coucher sur les rails, ou de se placer face à un train qui s'en vient à pleine vitesse. On pense à un TGV, se faire frapper, se faire écrabouiller. Les gens sont dépourvus de toute espérance. Il n'y a pas d'espérance à l'extérieur pour les gens. C'est un esprit de découragement. On parle cette semaine, on a lu que les Belges sont les champions. Il y a eu la Pologne, il y a eu les Russes. Maintenant, c'est les Belges qui sont les champions pour... Ouais. On a eu la France, on a eu d'autres pays. Maintenant, c'est les Belges qui sont champions des médicaments. Ouais. Les gens sont sans espérance. On se bourre pas d'alcool ni de médicaments parce qu'on est heureux. Extérieurement, ça, on démontre simplement qu'on a un gros problème, quoi. Parce que moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai le Seigneur. C'est ce qui est important pour moi. Ouais. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Troisième objection, le paradoxe de la souveraineté de Dieu, du libre arbitre de l'homme. C'est quelque chose sur lequel nous nous penchons à tout moment, à un moment ou à un autre dans la vie. Si Dieu est souverain qui contrôle ma vie, comment puis-je avoir la liberté de faire des choix dans ma vie? Ou si j'ai la liberté de faire ce que je veux, comment Dieu peut-il être en contrôle de ma vie? Comment puis-je dire que Dieu est en contrôle de ma vie? Cette question peut vous amener à vous poser plusieurs questions intéressantes, telles que Dieu, si Dieu est souverain, pourquoi prier? Il a tout compris de toute façon. Si Dieu est souverain, pourquoi essayer de tenter de faire quelque chose? Si Dieu a déjà décidé d'avance, comment ça va se passer? Ou si Dieu a décidé d'avance, quels seraient les résultats? Si nous disons que Dieu détermine littéralement tout ce qui se passe dans le sens où il provoque tout ce qui se passe exactement comme il le veut dans ma vie, cela peut avoir des conséquences terribles au niveau moral. En pensant ainsi, nous risquons d'être en train de dire que c'est Dieu qui a fait naître le péché dans le cœur du roi Nebuchadnezzar, célèbre roi de Babylone, dont nous trouvons un résumé de sa vie dans la vie de Daniel. En examinant tout ce qu'il avait accompli, ce roi s'est mis à se vanter, à faire le fier, ce qui a causé sa chute et qui l'a ensuite amené à se repentir de son péché par la suite. Je répète ce que je viens de dire. Si nous disons que Dieu détermine littéralement tout ce qui se passe dans la vie d'une personne, dans le sens où il provoque tout ce qui se passe exactement comme il le veut, et que nous n'avons pas le choix de faire tout ce que nous faisons, cela peut avoir des conséquences terribles. D'abord nous dire qu'on n'est pas responsable de rien, puisque c'est Dieu qui nous prend, qui nous conduit. Mais c'est un point de vue qui me trouble, parce qu'en pensant ainsi, cela signifie que c'est Dieu qui aurait poussé le roi Nebuchadnezzar à pécher, pour ensuite le punir et l'amener à la repentance. Dans ma compréhension des Écritures, si je prends le cas du roi Nebuchadnezzar, je ne crois pas que c'est Dieu qui l'ait amené à se vanter de tout ce qu'il avait accompli. C'est librement et volontairement qu'il a agi ici en s'accaparant la gloire qui revenait à Dieu. Dieu l'a ensuite puni pour son péché, pour l'amener à reconnaître que c'est lui qui a œuvré à travers le roi, pour l'amener ensuite à se repentir de son péché. Quand il a reconnu la vérité au sujet de Dieu, il a été restauré dans son royaume. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible que l'homme a perdu son libre arbitre lorsqu'Adam a péché, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Simplement, si vous voulez rapidement prendre Genèse chapitre 4, verset 7, ce passage nous dit autre chose. On est dans le passage où Caïn est jaloux de son frère et qui, après avoir eu de l'amertume, de la rancune, il y a un péché qui va sortir dans son cœur, c'est celui de vouloir tuer son frère. Dieu, connaissant toutes choses d'avance, ayant autant pitié de Caïn qu'il a eu pitié d'Abel, qu'il a eu pitié de nous, Dieu va lui parler, Dieu va l'avertir avant qu'il commette son geste, et il va lui dire ceci. Je vais le lire en français courant. Il dit le péché comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. C'est un choix que tu dois faire. Tu as la liberté de faire le bien ou de faire le mal. Je te préviens. Si nous disons que l'homme a perdu son libre arbitre, nous avons là un gros problème en disant que c'est tout ce que Dieu veut, c'est toujours ce qu'il accomplit, parce que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours ce que Dieu veut qui s'accomplit. Je vais vous donner deux exemples très simples. Par exemple, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, 4 que Dieu, notre Seigneur, veut que tout homme soit sauvé et que tout le monde vienne à la connaissance de la vérité. C'est pas ce qui se passe, hein? C'est pas ce qui se passe. Je vais vous en donner un autre. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous constatons. Nous avons dit au début qu'au niveau de l'ordre naturel, Dieu règne sur sa création. Mais il existe un autre ordre, c'est celui de l'ordre moral, dans lequel les règles sont des règles morales. Et c'est là que notre responsabilité rentre en ligne de compte. Dieu est un être moral, capable d'aimer, de pleurer, de consoler, de compatir, de ressentir ce que nous ressentons. Au niveau moral, Dieu a donné non seulement à l'homme la liberté de pouvoir choisir, mais en plus la capacité de faire des choix quand il lui appartient, celui de lui obéir ou celui de lui désobéir. Ce que j'entends par là, c'est qu'en tant que chrétien, à la croix, Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. On a donc la liberté de dire non au péché. Vous êtes amen à ça? Ça, c'est extrêmement important si on veut grandir dans la sanctification. En fait, Dieu a créé l'homme de façon à ce qu'il soit amené constamment à prendre des décisions. Au niveau moral, l'homme n'est pas libre de ne pas prendre régulièrement des décisions morales. Ça va éviter à l'homme un jour, quand il va comparaître devant Dieu, de lui dire « Si moi je suis en vent en enfer, c'est de ta faute. C'est parce que tu l'avais décidé d'avance. » J'ai entendu l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Moi, j'ai rejeté cette foi. J'ai voulu rester comme j'étais. Et ce que je reçois aujourd'hui, c'est le juste jugement que je mérite en tant que pécheur. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi il est important d'annoncer l'Évangile. La foi, elle ne peut venir quand la... Que lorsqu'on entend l'Évangile, on peut sortir n'importe quel baratin, essayer d'endormir les gens, essayer de faire pleurer les gens. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est être sûr de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Moi, j'ai pas vu Jésus-Christ ressuscité. La parole le dit, j'ai la conviction que ça, même si je ne l'ai jamais vu, la parole le dit, je suis convaincu que Jésus-Christ est ressuscité. La Bible me dit que Jésus va revenir un jour. Eh bien, Jésus-Christ va revenir un jour. La Bible nous dit qu'il y aura un jugement dernier. Il y aura un jugement dernier. C'est une question de foi. On fonctionne tous par la foi. Tous. Moi, je suis ici, je fais mon mois. Par la foi, je sais que je vais recevoir un salaire. Par la foi. Tout est une question de foi quand vous y pensez. Tout est une question de foi. Ah, il manque une page, tu sais. Bon, j'ai essayé de rafistoler. Ce que je veux dire, c'est que quand on est... Ce que je voulais dire, en fait, je pense que c'est ce que j'avais écrit. Ce qui est important pour nous, c'est que tant et si longtemps qu'on est pécheur, c'est vrai qu'on fait ce que notre cœur désire. Et c'est vrai qu'au niveau d'obéissance à la parole de Dieu, il est pratiquement impossible pour un pécheur de vivre comme Dieu le demande, puisqu'il ne connaît même pas ses lois, il ne connaît même pas ses commandements, il ne connaît même pas personnellement ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Par contre, là où le pécheur n'a pas d'excuse, c'est que Dieu, dans sa grâce, lui a donné la conscience. La conscience, l'auteur des Proverbes, il nous dit que c'est la lampe que Dieu a donnée dans le cœur de l'homme, a placée dans le cœur de l'homme, pour éclairer les profondeurs de son corps, de son âme. Alors, quand on fait quelque chose de mal, même si on ne connaît pas le Seigneur, il y a une petite voix qui nous parle ici. Il y a une petite voix qui nous parle dans notre cœur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein? Moi, la conscience, elle s'est réveillée. J'avais 5 ans. C'était mon premier vol. J'avais fouillé dans la poche d'un professeur à l'école, de son veston, qui avait accroché son veston. J'ai trouvé une pièce de monnaie. Je ne me souviens plus de la pièce. Puis là, il y a quelque chose qui me dit, « Ça, c'est pas bien ce que tu viens de faire là. » Et j'ai tremblé. Pour la première fois, j'ai tremblé. Ouais. Dieu m'a donné la conscience. Ouais. Et quand... Et ça peut arriver, et Dieu a encore agi à travers la conscience, Dieu a agi aussi par le Saint-Esprit qui a placé en nous, mais les deux travaillent ensemble. Hein. La seule chose, c'est que le péché ne pourra jamais, jamais, jamais influencer le Saint-Esprit à nous amener à faire le mal, mais la conscience, le problème... C'est que la conscience, elle peut aller vers la chair et comme elle peut suivre ce que Dieu dit aussi, elle est un très mauvais guide finalement. Mais en tout cas, il y a une chose de certain, quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas né de nouveau, on a quand même cette conscience. Il y en a qui appellent ça en théologie l'étincelle divine que Dieu a placée dans notre cœur, mais on a quand même quelque chose en dedans de nous, c'est la conscience qui nous empêche de vivre ou d'agir comme les animaux. Et des fois, on se demande en regardant les hommes vivre s'ils ont vraiment une conscience. Quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai, non? Il y a des gens, parce que la conscience, on peut tuer notre conscience, hein, au point où on ne l'entend plus. Hein. J'ai travaillé avec un tueur à gages qui a tué 52 personnes, comme s'il mangeait un spaghetti le midi. Hein? Et j'ai dit, comment tu as fait pour tuer 52? Ça, c'est, il m'a dit que c'est ça, c'est le nombre de personnes qui se rappelaient d'avoir tué. Parce que savez-vous comment il tuait sa conscience? C'est qu'il était incapable de refaire un règlement de compte sans signifier deux, trois lignes de coke avant d'y aller. Il devait prendre sa dose de coke pour être capable d'endormir sa conscience, parce que même si c'était un tueur à gages, il y avait toujours cette petite voix qu'il n'était pas capable d'endormir à moins de consommer. Ouais. Dieu nous a donné une conscience. Et même en tant que chrétien, si notre relation elle est coupée avec le Seigneur, je peux vous dire une chose, la conscience, elle travaille dans nos vies. Et Saint-Esprit, bien, si on ne veut pas entendre la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va travailler à travers notre conscience pour nous rappeler, pour essayer de nous ramener finalement à vivre une vie comme Dieu nous le demande. Au niveau moral, l'homme a toujours le choix d'obéir ou de désobéir à Dieu. Et ça responsabilise l'homme. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, je n'attaque pas la souveraineté de Dieu. C'est une doctrine qui est biblique. Dieu règne sur l'univers. Il n'y a rien qui peut changer, ni personne qui peut changer quoi que ce soit au plan que Dieu établit avant même de créer le ciel et la terre, avant même de créer le monde. Mais nous sommes des créatures spéciales aux yeux de Dieu. Nous sommes les seules créatures sur toute la terre et même dans l'univers à qui Dieu a donné un corps, une âme et un esprit. Les animaux ont un corps, ont une âme. Hein? L'âme, c'est le siège des émotions, le siège de la personnalité, ainsi de suite. Les animaux, on ne peut pas se le cacher, ils souffrent, ils ont une mémoire, les animaux. Hein? Ils ont une mémoire. Bon. Par contre, ils n'ont pas d'esprit, ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. L'être humain, on a un esprit, on peut communiquer avec Dieu. Voilà. Alors, à ce niveau-là, bien, Dieu nous responsabilise, il nous a donné sa parole. Et c'est bien de se rappeler que même en tant que chrétien, si vous vivez des choses extrêmement difficiles, rappelez-vous surtout qu'en tant que chrétien né de nouveau, le but de Dieu, c'est de vous amener, de m'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on est capable de dire, peut-être pas avec un sourire, mais avec une certaine paix dans notre cœur, que tout ce que Dieu permet dans nos vies, ça va concourir à notre bien. Et notre bien, c'est toujours de ressembler à celui qui est la source de notre foi, qui est l'auteur de notre salut, et qui nous attend là-haut parce qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et un jour, eh bien, frères et sœurs, un jour, il va revenir. Et tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être prêt à le recevoir. En attendant, le psaume 103 nous apprend, en terminant, bien, le psaume 103 nous apprend que nous sommes plus riches que nous le pensons. Nous sommes davantage bénis que nous pouvons le penser. Et nous avons plus que ce que nous pouvons réaliser. Frères et sœurs, pourquoi nous avons tout ce que nous avons et au-delà de ce que nous avons? Et pourquoi il y a des chrétiens qui vivent dans des pays où ils ont de la difficulté à manger un repas par jour? Pourquoi nous, on vit en toute liberté, on peut encore proclamer l'Évangile? Et il y a des chrétiens qui sont incapables d'ouvrir la bouche parce que s'ils prêchent l'Évangile, ils risquent 10, 15, 20 ans de prison. Est-ce que Dieu est injuste? Là, le passage est difficile à accepter. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pour ceux qui ont vu la croix de Jésus en Chine, ça a pris plus de 100 martyrs chrétiens pour amener un réveil en Chine. Et ça, c'était le prix à payer pour que la Chine se répande dans l'Évangile. Frères et sœurs, si vous me demandez pourquoi Dieu a voulu que 100 personnes meurent en Chine pour que l'Évangile puisse se répandre, je peux vous répondre simplement ceci, je ne sais pas. Dieu est Dieu, et Dieu sait au-delà de moi, et sait bien mieux que moi ce qu'il doit faire pour que son Évangile puisse se propager. Pourquoi Dieu a permis que les chrétiens soient installés sur des poteaux dans l'arène à Rome, recouverts de bitume, et qu'on mettait le feu après? Pourquoi Dieu, nous on le sait pourquoi, parce que l'histoire nous dit, et que ces chrétiens ont pu chanter des cantiques de louange pendant qu'ils brûlaient, eh bien, Dieu, c'est à travers cela, ces martyrs, que les massacres dans les arènes de Rome ont cessé. Et c'est à partir de là que le christianisme a commencé à placer ses valeurs. Frères et sœurs, Dieu est Dieu. Mais une chose de sûre, c'est que la parole nous dit que rien, il ne permet pas que nous vivions quoi que ce soit qui soit au-delà de nos forces. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est le Dieu que je sers. Et si nous pensons que nous ne serons pas capables d'encaisser les épreuves que Dieu va placer devant nous, eh bien, le Seigneur est là pour nous protéger, le Seigneur est là pour nous couvrir et pour donner les forces nécessaires qu'on a besoin. Et c'est pour ça que Paul dit « Je puis tout par celui qui nous fortifie ». On est capable de passer à travers toutes les épreuves si on garde nos yeux sur lui. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous demandera jamais de nous faire crucifier pour l'Évangile, jamais. Jamais. Il ne nous demandera jamais de souffrir comme le Seigneur a souffert. Mais il nous demande de marcher dans le cortège de victoire que le Seigneur Jésus a remporté pour nous. On a un Dieu extraordinaire, un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Profitons de l'occasion, s'il y a des pays où les chrétiens doivent se cacher. Les chrétiens doivent se cacher pour se rencontrer. Où des chrétiens n'ont pas accès à toutes les versions bibliques qu'on a, mais il y en a qui auront peut-être une page en toute leur vie, qui seront en mesure de lire une seule page dans leur vie, l'apprendre par cœur et après ça la donner à quelqu'un d'autre. Eh bien, rendons grâce à Dieu pour ce temps de paix que nous vivons présentement, parce que de plus en plus, nos sociétés font des efforts pour tout laïciser et pour limiter le message de l'Évangile. Il faut regarder ce qui se passe autour, les lois qui sont votées. Ça s'en vient rapidement. Au Québec, quand on vient de voter une loi, en Europe, à la communauté européenne, il y a une députée européenne qui met beaucoup de pression pour qu'on ne puisse plus permettre à des homosexuels de suivre des thérapies, parce que c'est normal aujourd'hui. L'homosexualité, c'est légal. Et celui qui va suggérer à un homosexuel de suivre une thérapie, ça comprend quelqu'un qui s'est converti, eh bien, il sera passible de prison. Frères et sœurs, profitons-en pour, je parle d'homosexualité, mais je peux parler de n'importe quoi, hein, de tout le reste, quoi. Hein. C'est simplement qu'on donne la liberté à tout le monde de faire ce qu'on veut. Hein. Au Canada, maintenant, le gouvernement fédéral a distribué une directive interne à tous les fonctionnaires. Quand les gens se présentent, eh bien, pour leur identité, on n'a plus le droit de demander qui est son père et qui est sa mère. On doit dire quel est le nom de tes parents. On ne peut plus parler à cause de la théorie du genre, on ne peut plus parler, on ne peut plus prononcer les mots père et mère, on est en train d'éliminer ça dans notre vocabulaire au Canada et ça va suivre partout. Frères et sœurs, profitons-en, on a cette grande liberté de se réunir dans une salle, on a cette grande liberté de pouvoir tenir nos Bibles dans nos mains, de pouvoir les lire quand on veut. Mais frères et sœurs, je ne suis pas un prophète, surtout pas un prophète de malheur, mais en lisant les Écritures, en regardant les événements qui se sont déjà passés antérieurement, qui ressemblent à un autre, frères et sœurs, il y a une tempête qui s'en vient. Il y a une tempête qui s'en vient, qui va se déferler sur les églises. Profitons de l'occasion où on peut rendre témoignage. Profitons de l'occasion. Parce qu'un jour, comme tout le reste, ça nous sera interdit. Interdit. Et on devra peut-être se réunir dans des maisons, en cachette. Je parle bien de la Belgique, en cachette. Pour pouvoir entendre, partager l'Évangile ensemble. Au mois de janvier, je ne sais pas le nom de la ministre, je ne suis pas tellement les nouvelles, mais quand il y a des gros titres qui arrivent dans une nouvelle le jour, j'essaie de lire. Il y a une ministre, je ne connais pas son nom, elle a dit en 2018, on va faire tous nos efforts pour laïciser davantage la Belgique. Laïciser davantage. Quelle est la différence entre la laïcité en Belgique et en France? En France, c'est une garantie de la séparation de l'Église avec l'État. Et en Belgique, la laïcité, c'est une religion. Pensez à la maison de la laïcité, financée par votre argent et mon argent. La laïcité en Belgique, c'est une religion. Alors, les gouvernements financent la laïcité, mais ne financent pas nécessairement les églises. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour la liberté que nous avons. Mais en même temps, méditons le psaume 103, parce qu'il y a de l'injustice qui déferle dans le monde, et c'est vrai que si on s'arrête uniquement à ça, comme Asaph, à un moment donné, on va être découragé, on va se demander si ça vaut vraiment la peine de vivre en tant que chrétien. Et quand Asaph a réalisé les récompenses qui viennent aux chrétiens et finalement le châtiment qui attend le méchant, eh bien, il a rendu grâce à Dieu pour toutes ces choses-là. Et c'est la même chose pour nous. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous vivez présentement. Peut-être que vous vivez l'enfer dans vos vies. Rappelez-vous qu'après l'enfer, pour le chrétien sur la terre, c'est le ciel, c'est le paradis qui l'attend. Tandis que pour le méchant, qui semble bénéficier de tout, eh bien, il vit son paradis maintenant et c'est l'enfer qui l'attend. Mais aussi, dans sa grande bonté, dans sa grâce, Dieu veut quand même que tout le monde parvienne au salut, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Ça, c'est notre responsabilité en tant que chrétien et membre de l'Église d'annoncer l'Évangile. Dieu veut que tous parviennent au salut. Et la Bible est claire, Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors Dieu aime tout le monde de façon égale. Que le Seigneur, pardon, chers amis, tout ce que nous croyons, tout ce que nous avons et tout ce que nous espérons se trouve dans la croix de Christ. C'est là que Dieu donne rendez-vous à tous les êtres humains, parce que c'est à la croix que vous trouverez le chemin qui mène à Dieu. Êtes-vous déprimé ce matin? Êtes-vous découragé? Avez-vous un besoin quelconque? Vous sentez-vous coupable ce matin? Vous sentez-vous fragile? Réalisez-vous que vous n'êtes qu'un poussière et que vous retournerez en poussière? Si c'est votre cas, Dieu vous dit, je te connais parfaitement, je sais ce que tu vis, et malgré tout, je t'aime. Repose-toi en moi, fais de moi ton rocher, et tu vas pouvoir marcher, marcher dans la vie, bien pas assuré. C'est ce que Jésus a dit aux gens de son époque, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Frères et sœurs, la bonté que Dieu a révélée en Christ est plus que suffisante pour chacun de nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, on peut tout vous voler, on peut tout vous enlever, mais si vous ne voulez pas, il n'y a personne qui peut vous voler la joie et la paix que vous avez reçue en Jésus-Christ le jour où vous l'avez accepté. Il n'y a personne qui peut vous voler votre salut si vous ne voulez pas abandonner le Seigneur. Ça, c'est le libre choix que vous avez ce matin. Dire, Seigneur, un jour, j'ai choisi de te suivre, et aujourd'hui, je renouvelle que j'ai choisi de continuer à te suivre, et ce, jusqu'à ce que tu me rappelles. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter le cantique 38 dans le, à toi la gloire.